Notre vision du monde influence nécessairement nos actions. Notre culture, nos convictions, notre éducation, ce qui fait que nous sommes nous, va influencer la manière dont on réagit face à la réalité. Face à une situation, en fait, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on soit à 100% détaché et qu'on regarde la situation de l'extérieur. Il y a toujours un peu... On y met toujours un peu de nous-mêmes. En 2007, dans le cadre d'une expérience réalisée pour le compte du Washington Post, un violoniste a joué pendant 45 minutes dans le métro de Washington en heure de pointe. Donc on est beaucoup ici à prendre le métro ou les transports en heure de pointe, donc on sait ce que ça implique, beaucoup de monde, on se bouscule, les gens sont pressés, etc. Sur le millier de personnes qui sont passées devant lui, il y en a seulement 6 qui ont pris le temps de s'arrêter et de l'écouter. Et en tout, il a récolté $32. Quand il a fini de jouer, pas d'applaudissements. Et son départ n'a été remarqué par personne. En fait, il se trouve que ce violoniste, c'était Joshua Bell, qui est connu pour être l'un des plus grands violonistes du monde actuel. Ce jour-là, il jouait sur un violon qui coûte pas moins de 3,5 millions de dollars. Il y a deux jours avant, il jouait à guichet fermé au Symphony Hall de Boston et la place était en moyenne à 100 €. Les passants de ce jour-là, ils n'ont pas pu apprécier la valeur de ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils ont été trompés par les apparences et rien dans leur conception des choses ou de leur conception du métro, de comment ça doit se passer dans le métro, ne les avait préparés à la valeur de ce qu'ils allaient voir ce matin de janvier 2007. Cette anecdote nous rappelle que notre relation avec le monde dépend du regard qu'on porte sur lui. Et c'est vrai dans tous les aspects. C'est vrai dans tous les aspects de notre vie et aussi vrai concernant le regard qu'on porte sur la pauvreté. Il y a certaines visions du monde, par exemple, qui sont source de grandes oppressions pour les femmes. Sotea, c'est une jeune Cambodgienne. À 14 ans, elle est tombée dans la prostitution. Elle raconte « Dans ma culture, on est d'avis que les femmes ont moins de valeur que les hommes. Il leur faut 7 réincarnations pour enfin naître sous la forme d'un garçon. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous différencier du monde. Et si ça impliquait de changer notre regard? Si ça impliquait d'expérimenter la manière dont Dieu voit les choses. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire cet après-midi. Deux passages de la Bible vont m'aider dans ce message. Le premier passage se trouve dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 12. Je lis dans la version du Semeur. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et un deuxième passage, toujours dans le même livre, mais au chapitre 22, un peu plus loin, et au verset 36 à 40. « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Changer de regard sur la pauvreté, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, en un claquement de doigts. C'est pour ça que je vous propose une réflexion en deux phases. Une première phase, c'est apprendre à me reconnaître en eux. Et une deuxième phase, ça sera de relever le faible. Phase 1. Ready? Vous serez d'accord avec moi si je dis que, en tant que chrétien, la Bible n'est pas seulement un manuel pour aller au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va, j'ai l'impression que vous êtes endormis cet après-midi, c'est le repas, il était trop bon. Non, c'est bon, ok, je vous ai. Ok, non, la Bible, c'est pas qu'un manuel pour aller au ciel, c'est bien plus que ça, on est d'accord. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La révélation que le Créateur donne à ses créatures pour voir le monde tel qu'il voit. C'est un peu comme une nouvelle paire de lunettes. Vous savez, moi, j'ai été chez l'ophtalmo il y a un mois parce que voilà, ma vue commence à baisser, hein, je pense. Et du coup, verdict. Mademoiselle Boyadjian, il vous faut de nouveaux verres. Votre vue a encore baissé. Oui. Et c'est nécessaire parce que sinon, je commence à voir flou. J'avais des migraines. En gros, j'avais besoin de nouvelles lunettes pour que ma vue soit plus claire, qu'elle soit plus ajustée. Dans notre vie, c'est pareil. On a besoin de nouvelles lunettes. On a besoin des lunettes que Dieu nous propose pour voir le monde tel qu'il voit. Nous avons besoin de régulièrement ajuster notre correction pour avoir une vision, une correction plutôt pour avoir une vision plus claire, plus adaptée de la réalité. Et par la Bible, le Dieu créateur fait ça. Il nous fait chausser une nouvelle paire de lunettes et il nous enseigne, entre autres, à voir toute la valeur de ses créatures. La déclaration de Lausanne fonde la responsabilité sociale du chrétien sur ce principe. Je cite. L'homme étant créé à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion ou la couleur de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe ou son âge. C'est pourquoi chaque être humain devrait être respecté, servi, et non exploité. Chaque être humain devrait être respecté, servi et non exploité. Dit comme ça, ça nous semble très logique. On se dit même pas qu'il pourrait en être autrement. Que ce genre de vérité, en fait, on les connaît, on les a intériorisées et tellement que des fois on les oublie un peu. C'est pas toujours évident de passer de la théorie à la pratique. Et Dieu, il nous connaît. Il sait qu'on est capable d'accepter ces vérités sans pour autant les laisser changer notre regard. Il sait qu'on oublie plus facilement les besoins des autres que les nôtres. C'est précisément pourquoi il va résumer sa volonté de la façon suivante. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je remarque que quand il y a un problème, quand il y a une situation qui se déroule dans le monde ou quelque chose qu'on nous raconte, on a souvent tendance à ne le prendre au sérieux que à partir du moment où on s'identifie nous-mêmes à cette situation, que ce soit personnellement ou que ce soit au travers d'un proche. Je m'explique. Je me souviendrai toujours, toujours, de ce jour de novembre assez doux. Je m'en souviendrai parce que c'est pas tous les jours qu'on a un mois de novembre très doux à Paris. Moi qui suis aixoise, vous savez que j'aime bien avoir chaud. Bref, du coup, j'en ai profité pour retrouver une amie après le travail. On a été prendre un Starbucks. On s'est raconté nos vies sur les quais de Seine. C'était vraiment chouette. On a passé un très bon moment. Ensuite, on devait aller manger ensemble dans un resto que je venais de découvrir au niveau du quartier de République. Et au final, bon bah vous savez comme c'est, hein, le vendredi, des fois on est crevé, on s'est déjà vu, on est là, bon allez, c'est pas grave, il est 19h30, on est un peu fatigué, bah tu sais quoi, on va rentrer, on reporte, et on est chacune rentrée chez soi. Ce jour-là, 2 heures plus tard, tout basculait à Paris. C'était le 13 novembre 2015, le jour des attentats au Bataclan. Et je me souviens ce soir-là, il était tard, j'étais chez moi, j'étais en train de comater devant ma télé. Et là, ils ont arrêté ce qui se passait pour annoncer la catastrophe. Je regarde mon téléphone, j'ai au moins 1000 appels en l'absence de ma mère. Et comme tout le monde, j'étais scotchée. Scotchée de ce qui avait pu se passer. Et surtout, j'arrêtais pas de me dire, ça aurait pu être moi, là. Ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être nous sur une terrasse, parce qu'il faisait doux, et on aurait pu être témoins de tout ça, voire même pire. Et là, d'un coup, j'ai réalisé toute la gravité, toute l'horreur de cette situation. Cette réaction, elle est juste normale, et comme beaucoup d'autres, j'ai réagi en exprimant la gravité par des « ça aurait pu être mon frère », il était dans cette salle de concert quelques semaines plus tôt. Il y en a d'autres qui se diraient, mais j'ai une amie qui est dans cette ville. C'est elle qui aurait pu y passer. Si des enfants sont agressés, il y a des parents qui commentent, mais elle avait l'âge de ma fille. S'identifier est tout à fait naturel. Et Dieu ne le condamne d'ailleurs pas. Au contraire, il va utiliser cette façon qu'on a de s'identifier aux problèmes des autres pour nous amener à prendre au sérieux des situations qui ne sont pas les nôtres. Ainsi, lorsqu'on voit quelqu'un dans la pauvreté, ne voyons pas seulement quelqu'un avec un besoin, mais voyons plutôt quelqu'un comme nous. Cette phase de me reconnaître dans les personnes qui sont pauvres, c'est nécessaire pour prendre conscience de leur réalité. C'est la première étape pour changer de regard. Et si c'était mon père? Et si c'était mon frère? Mon enfant? Et si c'était moi? Et si c'était moi? Dieu m'invite, Dieu nous invite à changer de point de vue, à nous imaginer à leur place pour saisir les enjeux. J'ai besoin de me reconnaître en eux. J'ai besoin pour justement pas avoir une personne juste devant moi qui a un pauvre en Afrique qui a faim ou encore un énième SDF qui demande quelque chose. J'ai besoin de me reconnaître en eux pour pas coller une étiquette sur ces personnes. Et pour imaginer ensuite, et si c'est moi, de quoi aurais-je besoin ? D'une petite pièce, ou d'être considérée dans mon humanité, avec mes forces, mes faiblesses, ma bonté, mon péché. Oui, frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire cet après-midi, c'est que si on change de regard sur les personnes pauvres, on va gagner une richesse, une vraie richesse, voire en eux une dignité qui va bien au-delà de leur pauvreté. Mais la Bible va plus loin dans le renouvellement de notre regard. Il ne s'agit pas seulement de me reconnaître en eux, mais de les reconnaître en moi aussi. Si Dieu nous invite à voir en eux la même dignité qui est en nous, il nous invite à reconnaître dans leur pauvreté notre propre pauvreté. Il nous invite à reconnaître dans leur pauvreté notre pauvreté. Oui, parce qu'il faut qu'on se rappelle que, on était tous trop pauvres, spirituellement et matériellement, pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. C'est ça notre état de base. C'est ça qui nous sommes. Pierre l'explique très bien dans son épître. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Vous savez à quel prix. C'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent ou l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dieu a payé le prix, celui de la croix. Il l'a payé pour obtenir notre libération. Ce prix, on était trop pauvre pour pouvoir le payer. Qu'on possède ou non les biens de ce monde, on est tous des créatures de Dieu. Mais nous sommes également tous des pécheurs, désespérément dépendants de la bonté de Dieu envers nous. Alors la phase 1 consistait à prendre conscience. C'est toujours la première phase, en fait, dans toute étape de changement, la prise de conscience. Et cette prise de conscience mène ensuite à une phase 2 qui est le passage à l'action. Et comment on passe à l'action? En relevant le faible. De notre regard sur la pauvreté va dépendre la manière de faire le bien. Si par exemple la personne n'est définie qu'au travers de sa pauvreté, si elle a juste cette étiquette pauvre sur son front, alors faire le bien, c'est qu'une assistance pour donner aux pauvres ce qui lui manque. Mais si c'est une personne créée à l'image de Dieu, l'objectif doit aller plus loin. Ça doit être de le fortifier, le faible, comme on le lit dans Ézéchiel. Tim Chester affirme dans son livre sur la responsabilité du chrétien face à la pauvreté, je cite, « Faire reprendre des forces aux faibles. Cette formule résume bien ce que représente une bonne action sociale. L'engagement social ne peut se réduire à fournir des biens et des services aux démunis. On peut parler d'œuvres sociales réussies quand les pauvres ont les moyens de faire des choix et d'induire des changements. » Je répète cette dernière phrase parce qu'elle est importante. On peut parler d'œuvres sociales réussies quand les pauvres ont les moyens de faire des choix et d'induire des changements. Et cette perspective est complètement biblique. Il y a vraiment la notion dans la Bible que la personne en difficulté, c'est pas quelqu'un de passif, c'est pas quelqu'un d'incapable d'agir, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de potentiel. Au contraire, c'est une personne qui a besoin d'aide pour pouvoir manifester son potentiel. Au-delà des besoins, regardons plutôt les dons que Dieu a donnés à chacun. Et comme on a la foi que Dieu peut faire de grandes choses au travers de nous, ayons la foi que Dieu peut aussi faire de grandes choses au travers de ces personnes. La vision de la pauvreté, c'est la loi de Moïse qui en parle très clairement. D'ailleurs, si on reprend un peu tout ce qui est autour de la loi, les lois sont d'abord conçues pour protéger les faibles et rétablir les opprimés. Et donc cette loi précise qu'il ne doit pas y avoir de favoritisme, ni envers le riche, ni envers le pauvre. En effet, favoriser le pauvre, ça peut paraître comme un acte de bonté. Mais en fait, ça serait lui refuser le droit d'être un citoyen comme les autres. Je vais prendre un exemple du quotidien. Pendant une partie de foot, avec des enfants, je précise, hein, il est souvent de bon goût de laisser un enfant de 4 ans marquer un but, nous piquer la balle. Des fois, s'il est au goal, on va lui faire des buts faciles, comme ça il va pouvoir les rattraper. Et quand il réussit, un peu grâce à notre aide, hein, disons-le, on n'oublie en général pas, d'en faire des caisses. Wouah, il a marqué, po, po, da, po, 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 po. On est d'accord. Et c'est le but qu'il soit fier, qu'il se sente encouragé, et on est super content parce que lui, il est là, il lève les bras, il est trop content, il revient vers sa mère, il fait oh, « Maman, j'ai marqué un but !» Et puis elle lui dit « Ah, bravo mon chéri !» Enfin bref, je me suis fait toute une scène. Ok, vous prenez cette scène, maintenant vous imaginez qu'on fasse exactement la même chose avec un adulte. Voilà. Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouverais ça genre hyper insultant. Je veux bien que c'est une notoriété publique que je suis pas très sportive, que je suis une quiche au foot, mais quand même, ce but, je voudrais l'avoir mérité quand même. Pas qu'on me favorise. Ben, il en va de même, en fait, si les pauvres n'ont pas accès à la même justice que les autres. C'est pourquoi la loi, elle donne l'occasion aux pauvres de s'en sortir à la sueur de son front. Dieu commande ainsi, donc je lis dans Lévitique 19, « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça vous rappelle pas une histoire? Hein? J'ai entendu peut-être pas... Ruth, ouais, tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ruth. Ruth et Naomi, elles ont débarqué en Israël, elles avaient rien, elles étaient pauvres, leur mari venait de mourir. Et Boaz a permis à Ruth de glaner dans son champ tout le blé qu'elle pouvait ramasser. Il a même dit à ses ouvriers de faire exprès d'en laisser un peu pour qu'elle puisse en ramasser. Et c'est ce qui a permis que Ruth et Naomi puissent manger. Ruth, elle n'était pas assistée dans cette histoire. Elle n'est pas venue à la fin de la journée avec les bras tendus, genre donnez-moi le blé et puis voilà. Non, son pain, elle l'a gagné à la sueur de son front. Elle a travaillé toute la journée. Et c'est ça, permettre aux pauvres de vivre pleinement leur dignité. Ça passe par les aider à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Par exemple, en Afrique subsaharienne, ça passe par l'accès à la terre, un élément important, mais ça passe aussi par l'accès à l'éducation, ça passe par l'accès aux soins, à l'alimentation, à l'hygiène. Aider concrètement ces communautés, c'est la manière, en tout cas, dont les partenaires du sel ont trouvé de faire le bien et de bien le faire. Et gardons en tête une chose. Ceux qui ont un jour eu besoin d'aide n'ont pas toujours vocation à être aidés, mais à pouvoir expérimenter un jour, eux aussi, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme nous dit Paul dans Actes. Quant à nous, quand on fait le bien, soyons prêts à constater un effet domino. À l'échelle individuelle, les exemples ne manquent pas de personnes qui, après avoir été au bénéfice d'aide extérieure, ont révélé à quel point Dieu avait mis en eux tout ce dont ils avaient besoin pour être eux-mêmes une bénédiction pour les autres. Il y a plein d'exemples comme ça. John, par exemple. Alors, je ne parle pas de John, le fils de Rachel, je parle de John, cet ancien enfant parrainé en Ouganda. Alors, son histoire, c'est que son oncle les avait chassés de leur maison, lui et ses frères et sœurs. Et il les avait chassés après la mort de leur mère et le départ de leur père. Cet enfant, il a été parrainé. Il a pu bénéficier du soutien scolaire, enfin tout ce que je vous ai présenté. Il a pu faire des études. Et grâce au soutien de son parrain et du personnel du centre d'accueil, John, en fait, il est devenu avocat. Et John, depuis 2009, il a défendu gratuitement la cause de plus de 300 personnes vivant dans la pauvreté. Il a reçu du bien et lui-même a fait le bien en retour. Il a reçu une bénédiction et lui-même est source de bénédiction. Voilà des faibles qui ont été fortifiés et qui contribuent au bien commun. Alors, au terme de cette réflexion tous ensemble, je voudrais que nous puissions réaliser que tout comme l'environnement du métro peut cacher une beauté bien réelle, la pauvreté, dans ce qu'elle peut avoir de plus sombre, peut voiler quelque chose de très beau, la valeur et la dignité de chaque être humain. Et nous sommes amenés à changer de regard pour voir plus loin, pour voir au-delà des apparences. Notre Seigneur nous a dit que les pauvres, on les aura toujours avec nous. Alors, comment est-ce qu'on va choisir aujourd'hui d'agir envers eux ? Si on veut faire le bien et bien le faire, on doit voir la pauvreté avec un regard renouvelé. Nous avons été amenés aujourd'hui à nous reconnaître en eux. Si on est appelé à les aimer comme nous-mêmes, c'est pas pour nous détourner de notre égoïsme, c'est pas pour sortir de notre coquille, c'est vraiment de manière désintéressée. Mais c'est un moyen de nous rappeler que derrière la pauvreté se cachent d'abord des personnes qui ont de la valeur. Ils n'ont pas besoin de recevoir une dignité en sortant de la pauvreté. Ils ont déjà cette dignité. Ils ont juste besoin qu'il y ait des personnes qui les aident à révéler cette dignité, à révéler leur vrai potentiel. Alors, cet après-midi, je nous laisse avec une question. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu changer mon regard ? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me bousculer, me transformer ? Et est-ce que je suis prêt à laisser Dieu agir au travers de moi pour être une bénédiction pour les autres ? Que nous soyons reconnaissants, mes frères et sœurs, chaque jour, pour tout ce que Dieu nous donne, et qu'on soit prêt à le partager généreusement pour permettre au plus grand nombre d'être libérés de l'esclavage de la pauvreté. J'aimerais qu'on puisse juste laisser résonner un peu tout ça et qu'on puisse prier dans notre cœur et laisser une minute pour que, je vous laisse tranquillement ingurgiter, digérer tout ça. Et je conclurai en priant. Ouais, Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que cette parole, elle nous donne tout ce dont on a besoin pour savoir comment agir comme tes enfants, comme ton peuple, dans le monde où tu nous as placés. Seigneur, merci parce que souvent cette parole, elle nous bouscule, elle nous dit des choses qui sont peut-être pas toujours faciles à appliquer, mais Seigneur, tu es là. On a cette assurance que tu es là, que tu nous as donné ton esprit et que tu vas nous donner les moyens d'agir, tu vas nous donner le vouloir et le faire. Seigneur, aide-nous à nous accrocher à cette promesse, mais aide-nous aussi, Seigneur, à nous lever et à ne pas rester insensible, Seigneur, face à ce monde qui nous entoure et ce monde qui est encore plein de péchés. Seigneur, on a vraiment besoin de toi pour chausser des nouvelles lunettes, pour apprendre à voir le monde comme toi tu le vois, pour apprendre à voir les gens comme toi tu les vois, et à les aimer. C'est vraiment pas inné en nous, mais Seigneur, tu peux le faire, tu peux le faire au travers de nous, tu peux nous remplir d'amour jusqu'à ce qu'on en déborde. Seigneur, on veut vraiment te remercier parce que tu agis hier, aujourd'hui, tu agiras demain. Et Seigneur, que nous puissions être partie prenante de ton action. Amen.